propose maintenant, dans cette deuxième partie de la matinée, c'est de lire le début de la lettre aux Galates. Le début de la lettre aux Galates. Et vous avez pour ça, dans le deuxième document, une première page, la vocation de Paul, qui vous donne l'essentiel de ce qu'on va retenir, et un troisième document, qui est le texte lui-même. Et au fond, à partir de maintenant, je vais de façon un peu rude vous plonger dans les textes, parce que c'est difficile d'entrer dans les textes de Paul. On m'a fait remarquer très justement que je n'ai pas mis dans la bibliographie la petite introduction au texte de Paul de Régis Burnet, qui est très bien pour entrer dans les textes de Paul, mais la chose est claire, c'est épuisé. Chaque fois qu'il y a quelque chose de très bien, ça s'épuise. Et après, ce n'est pas réédité. Bon, si vous le trouvez en bibliothèque, j'aurais dû l'ajouter. Alors, nous, on va essayer de lire, voilà, d'entrer dans les textes et de vous montrer comment on entre dans les textes de Paul. On va lire le début de la lettre aux Galates, qui raconte, où Paul raconte lui-même, alors je vous ai dit, il faut le lire avec prudence, fait un récit de sa propre, non pas conversion, mais de sa propre vocation. Et en fait, ce que je voudrais mettre en perspective, c'est, d'une part, la façon dont Luc le raconte dans les Actes des Apôtres, comme toile de fond, qui est à peu près ce que vous trouvez sur la représentation là, de l'enluminure du manuscrit du Xe siècle. Un Paul, un événement spectaculaire, dramatique, renversé sur la route, la lumière, il y en a qui voient la lumière, qui n'entendent pas la voix, d'autres c'est le contraire, Paul qui est devenu aveugle, et le Seigneur qui lui parle, pourquoi me persécutes-tu ? Il ne persécute pas le Seigneur, il persécute ses disciples, mais donc on voit bien que c'est la même chose. Et Paul, aveugle, est ramené, ça ne devait pas lui plaire, par la main jusqu'à Damas, où il reste 3 jours aveugle. Le symbolisme des chiffres, il est là. Hein. 3 jours, c'est quand même le temps de la résurrection. Jusqu'à ce que Anani, envoyé par l'Esprit-Saint, vienne le baptiser. À ce moment-là, les écailles lui tombent des yeux. C'est l'illumination du baptême. Il mange, il se relève et il part annoncer Jésus dans les synagogues. Ça, c'est le récit mis en forme par Luc et c'est l'imaginaire chrétien. D'où, évidemment, toutes les représentations. Après, et donc, attendez, ce récit de Luc, c'est la mise en scène, le spectaculaire, la visibilité et le fait que Paul va passer, au fond, d'une religion à l'autre par une série de médiations. La rencontre avec le Seigneur, on le prend par la main, la méditation, le baptême, l'illumination, le repas et une sorte de résurrection. Donc des médiations, une entrée finalement de Paul le Juif dans la foi et l'Église de Jésus-Christ. En face de ça, on va lire ce que Paul raconte dans la lettre aux Galates, où il parle en jeu, il raconte son histoire. Un petit mot pour présenter la lettre aux Galates. La lettre aux Galates est une lettre difficile parce que c'est une lettre de combat, vraiment violente. C'est la plus violente des lettres de Paul. Elle a été écrite certainement sous le coup d'une émotion forte. Et l'émotion forte, je vous la présente rapidement. On la voit bien à travers le texte, mais il vaut mieux que je la présente d'abord. Paul est allé dans ce partie nord de la Turquie, au nord d'Ankara, dans ce monde de Galates, qui était donc très peu préparé, surtout des païens, pour annoncer Jésus-Christ. Il a été très bien reçu, il était malade, les Galates l'ont entouré, l'ont accueilli, se sont finalement, pour un certain nombre d'entre eux, convertis à la foi en Jésus-Christ et ont beaucoup adhéré à cette ouverture, à ce salut qu'il leur proposait. Bon. Paul, guéri, heureux, après avoir rassembler, conforter les frères, s'en va. Or, après Paul, sur ses traces, sont arrivés en Galatie, des disciples de Jésus venus de Jérusalem. Nous, on les appelle des judéo-chrétiens, plus exactement, des chrétiens venus du judaïsme, mais Paul en est aussi. Alors, plutôt des disciples de la mouvance de Jacques de Jérusalem. Ceux qui sont persuadés que malgré les accords, y a-t-il eu des accords ? Peut-être pas encore. Ceux qui restent persuadés à cette époque assez ancienne, avant la rencontre, certainement racontée dans les Actes des Apôtres, qu'on ne peut pas devenir disciple de Jésus si on ne passe pas par la case judaïsme. Il faut d'abord être juif, comme Jésus. Circoncision, séparation des tables, observation de la loi, observance de la loi, je veux dire, on ne peut pas. Donc, ils viennent et ils disent aux Galates, qui sont des gens inquiets, hein, d'anciens païens, très superstitieux, qui ont peur de tout, « Oui, très bien, vous êtes libérés des peurs et des idoles, aimés de Dieu, mais pour être disciple du Christ, il faut que ça se voit, il faut pratiquer la loi de Moïse. Faites-vous circoncire, séparez-vous du point de vue de la nourriture, des nourritures païennes, et observez la loi. » Les Galates se disent, après tout, ça fait des garanties. Finalement, le maître mot, c'est « on veut des garanties, les autres leur en apportent, on vous donne des garanties, ils plongent dedans. » Et Paul l'apprend. Bonjour la fureur. Paul saute en l'air. C'est le contraire pour lui du sans condition. Le contraire de il n'y a ni juif ni grec. Le contraire de la vérité de l'évangile du Christ. Et donc Paul a envie de hurler. Paul écrit, il vaut mieux parce que sur place il était sûrement insupportable. Il écrit. Et il écrit une lettre dont la texture, le style témoignent d'une agitation, d'une émotion intérieure intense. Paul est en train de défendre ce qui fait son existence même. Voilà, ce qui fait son existence même. Il le dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il défend la vérité du Christ. Alors, en plus, on voit bien que les autres, pour gagner les Galates à leur point de vue, ils ont décrié Paul. Ils ont dû dire, enfin, d'abord, est-ce que c'est un vrai ? Vous avez cru Paul, mais enfin, était-il disciple de Jésus ? L'a-t-il connu ? Pas du tout. C'est pas un vrai, il ne fait pas partie des 12 apôtres. Méfiez-vous. Et donc Paul va en plus dire, mais la vérité de l'évangile, le Christ que je vis en moi, il m'authentifie, bien sûr que je suis un vrai, bien sûr que Dieu m'a envoyé. Et donc il va défendre du même coup sa propre vocation d'apôtre et la vérité de l'évangile pour tous sans condition. Ça va ? Ça, c'est le nœud de la lettre aux Galates. Après, c'est une lettre compliquée parce qu'il s'engage dans un débat serré sur ce sans condition, sur ni juif ni grec, etc. Bon. Mais il faut savoir ça pour comprendre la lettre aux Galates. Le début de la lettre que vous avez sous les yeux, donc c'est le document 3, montre tout de suite à quel point Paul est perturbé. Normalement, une lettre de Paul comprend un certain nombre de règles fixes qui sont les règles, au fond, du genre épistolaire. On a d'autres lettres en monde grec profane qui sont construites comme ça. Il y a une salutation qui comprend un destinateur, un expéditeur, Paul et tous les frères qui sont avec moi, un destinataire aux églises de Galatie, c'est l'enveloppe si vous voulez, destinateur, expéditeur, destinataire et salutation. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les lettres de Paul ont ça, et celle-ci là aussi, mais avec des ajouts, elles ont toutes un peu des ajouts, on va y revenir. Ensuite, une lettre normale commence, et ça fait partie, au fond, de la littérature générale, et c'est encore plus accentué au monde juif, et c'est le schéma aussi de la prière chrétienne. Ça commence toujours par une action de grâce. On rend grâce pour ce qui va bien. Et en foi juive et chrétienne, on rend grâce pour le don de Dieu. Evcharisto, c'est encore en grec aujourd'hui, je rends grâce. Je rends grâce, je remercie Dieu. On rend grâce pour tout ce qui va bien. Ensuite, on exhorte pour traiter les affaires qui vont moins bien. On exhorte à faire ceci ou cela. Parakalo, c'est la paraclèse, l'exhortation. Soyez dignes du don que vous avez reçu et pour lequel vous venez de rendre grâce. Ça marche ? C'est la structure de la prière juive, c'est la structure de la prière chrétienne. La prière juive bénit, nous on rend grâce. Pareil, Eucharistie au lieu de bénédiction, ou les deux en même temps. Et ensuite, on va reprendre, dénoncer, exhorter, etc. Dans les lettres de Paul, c'est assez intéressant d'avoir ce schéma en tête, parce que la proportion de l'action de grâce et de l'exhortation vous donne la température du climat entre Paul et les communautés. Dans la lettre aux Thessaloniciens, il y a 3 chapitres d'action de grâce, 2 actions de grâce qui suivent, et 3 petits chapitres d'exhortation, tout bête. Dans la lettre aux Corinthiens, la première, qu'on lira cet après-midi, vous avez 12 lignes d'action de grâce et vous avez 16 chapitres d'exhortation. Ça commence à aller sacrément mal. Dans la lettre aux Galates, l'action de grâce a disparu. Complètement. Complètement. Et Paul fonce dans le tas. Je m'étonne que vous vous détourniez. Ça va vraiment très mal. Ce qui montre que ça va très mal, c'est effectivement cette façon de Paul qui a attaqué, mais on le voyait déjà dans la façon dont il se présentait. Il se présente de façon superflue, avec des précisions qui sont au fait le fruit d'une espèce de tension, d'émotion et presque d'agressivité. Paul, d'habitude, il dit « envoyé ou esclave de Jésus-Christ, par Dieu le Père ». Là, « envoyé non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu Père qui l'a ressuscité des morts ». Bon, non par un homme, ni par un homme, on n'a pas besoin, c'est du superflu. Il est en train de se battre pour dire « non, 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 c'est Dieu seul qui m'a envoyé le Christ ». Il va le reprendre un peu plus bas. Regardez tout de suite au verset 11. J'ai mis en gras. En effet, je vous le fais connaître, frère, l'évangile qui vous a été annoncé par moi n'est pas d'après un homme. Je vous rappelle que nos évangiles sont toutes selon ou d'après, hein, d'après Matthieu, d'après Marc. Lui, ce n'est pas d'après un homme. En effet, ce n'est même pas en passant par un homme que je l'ai reçu, que j'en ai été instruit, mais par une révélation de Jésus-Christ. Cette insistance. J'ai mis les prépositions en gras parce qu'on a l'impression qu'il prend toutes les prépositions de la langue grecque qui sont capables d'exprimer une médiation pour toutes les nier les unes après les autres. Voilà. Il épuise. Vous ne me direz pas que je suis envoyé par un être humain. Je suis envoyé par Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Son combat, il le montre là de façon très, très forte et agressive. Et ensuite, il va tout de suite attaquer dévoilant le fait que je vous ai exposé, pourquoi des gens sont venus troubler les Galates. Donc je prends le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez aussi rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce, qui est le Christ, hein, pour passer à un autre évangile, à une autre bonne nouvelle. Il n'y en a pas d'autre. La vérité de l'évangile, elle est une et indivisible. Seulement, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Or, même si quelqu'un, nous, parce que Paul parle toujours en nous, non pas à nous de majesté, mais on n'est jamais témoin tout seul, hein, moi et les autres apôtres. Nous, ou un ange du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, rejeté. Comme nous l'avons dit auparavant, comme je viens de le redire, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, tout de suite, ce que Paul est en train de dire, c'est la vérité de l'évangile. C'est ce que vous avez reçu de nous, nous et les frères, hein, qui sommes venus une première fois. Et ce qu'on a rajouté par-dessus, c'est un autre évangile et ça n'existe pas. Tout de suite, donc, il attaque. Et à partir de ce moment-là, il va passer à la démonstration pour montrer que, à la fois, il est bien envoyé de Dieu et non pas un parasite venu d'une autre instance humaine, comme il a l'air de le dire pour les autres, parce que par derrière, il les attaque, et en même temps que ce qu'il a annoncé, c'est bien la vérité de l'Évangile, sans condition, sans exigence préalable de la loi de Moïse. Ça va ? Donc vous voyez le caractère, au fond, polémique et un peu agressif, sous le coup de l'émotion, de ce début. Alors, je vais un peu vite parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Hein. Vous relirez après en détail, mais je vous souligne les choses essentielles. On va lire d'un peu plus près à partir du verset 13. Il vient de dire « Je l'ai reçu par une révélation de Jésus-Christ ». Avec, j'insiste sur ce mot, une révélation de Jésus-Christ, on va trouver des tours d'écriture de Paul. On va essayer de voir comment son style est marqué, et toujours, revient toujours. Il utilise sans arrêt le complément de nom grec, qu'on appelle le génitif, avec un double sens, et vous ne savez jamais lequel est le bon. Je m'explique. Une révélation de Jésus-Christ, est-ce que ça veut dire que c'est Jésus qui lui a révélé quelque chose, ou est-ce que c'est Jésus qui lui a été révélé ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a les deux sens. Vous ne savez jamais dans quel sens il emploie. Et sans arrêt, il fait ça. Comment ? Et non, la traduction, elle calque, elle essaye aussi de dire les deux à la fois. Mais on n'a rien pour trancher. Quand il va parler, il y a un débat actuel, moi je suis un peu partie prenante dans ce débat, mais sûr, nous sommes sauvés par la foi de Jésus-Christ. Moi je traduis la foi de Jésus-Christ. Mais jusqu'ici, il y a encore beaucoup de gens qui traduisent par la foi en Jésus-Christ. En fait, c'est les deux, la foi de Jésus et la foi que nous avons en la foi de Jésus-Christ. Mais c'est très difficile, les lettres de Paul, et on va trouver des tours de style comme ça, parce qu'il a ces raccourcis d'écriture où il joue sans arrêt sur les deux sens. Prenez tout, il faut tout prendre. À la fois, c'est Jésus-Christ qui lui a révélé ce qu'il était, et à la fois, Dieu lui révèle Jésus-Christ. Il faut tout prendre, sinon on n'y arrive pas. Et pas vouloir simplifier. Alors, il reprend et il s'explique. Verset 13, là je vais aller plus doucement. Il rappelle son passé. Et là, ça coïncide exactement avec ce que Luc dit dans les Actes des Apôtres. Luc sait des choses, il a lu. En effet, vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme. Je persécutais à l'excès l'Église de Dieu. Alors, l'Église de Dieu, c'est ces petits groupes chrétiens. Hein. On les appelait déjà comme ça. Ou lui les appelle comme ça. Et j'ai cherché à la détruire. Et je faisais des progrès dans le judaïsme plus que la plupart de ceux de mon âge dans ma race. Le mot race est mauvais. Dans la dernière traduction de la Bible en français courant, la nouvelle français courant, on l'a enlevé. Parce qu'on n'emploie plus ce mot aujourd'hui pour le judaïsme. Il faudrait dire dans ma tradition religieuse. En débordant de zèle pour la tradition de mes pères. Donc, Paul se considère et se définit comme un zélé, dans la lettre aux Galates, il parlera d'un pharisien, du groupe le pharisien le plus rigoriste, le plus zélé, et par rapport à ceux de son âge, tranquillement, il vous dit qu'il est le meilleur. Il y a une fierté de Paul qui ne se démentit jamais. Il veut bien tout renverser aux pieds de Jésus-Christ, n'empêche qu'il a quand même été le meilleur. Il vous le fait savoir. Mais oui, pas grave. Voilà. Donc, il est faisait partie de ces groupes, cette tendance juive extrêmement rigoriste et extrêmement fière de soi. Et il ne le nie pas. Il ne le niera pas plus dans la lettre aux Philippiens. Mais, le mais, c'est, vous allez voir comment Paul, et là, soyez attentifs, comment il va nous présenter ce qu'on a pris l'habitude, à cause des Actes des Apôtres, d'appeler l'événement de Damas. Ce machin spectaculaire, là. Voilà. Ça. Vous allez voir comment lui va le présenter. Quand même assez extraordinaire. Mais quand Dieu, qui m'a mise à part dès le ventre de ma mère, il m'a appelée par sa grâce, a jugé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les nations. Les nations, c'est tout ce qui n'est pas juif, hein, les païens. Aussitôt, je ne me suis pas réclamée d'une autorité humaine. Et je ne suis pas montée à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis partie en Arabie, puis de nouveau, je suis revenue à Damas. Et là, vous apprenez que ça se passait à Damas. Le chemin de Damas se vérifie ici. Dans ces quatre lignes, vous avez résumé les trois récits. Vous savez qu'il y a trois récits des Actes des Apôtres. Vous n'avez pas résumé. Vous avez la façon dont Paul raconte l'événement vécu par lui et non pas raconté de l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose de spectaculaire là-dedans ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On reprend mot à mot. L'initiative est à Dieu. Ça, personne ne va le nier. Quand Dieu, qui m'a mise à part dès le ventre de ma mère, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, ça fait depuis l'origine qu'il est comme ça prédestiné, qu'il est appelé. C'est la prophétie. C'est exactement, merci, le vocabulaire qu'emploient les grands prophètes d'Israël, et notamment les deux grands prophètes, Jérémie, chapitre 1, verset 5, hein, Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a envoyé vers les païens. Jérémie, pareil, 1, 5. Et deuxièmement, le grand prophète qui parle dans la seconde partie du livre d'Isaïe, ce qu'on appelle le deuxième ou le Deutéro-Isaïe, au chapitre 49, celui qu'on appelle aussi le prophète serviteur, celui qui va être mis à mort, qui va mourir, dont les autres vont, devant lequel les autres vont se convertir. Et celui-là dit, Dieu m'a mis à part dès le ventre de, sa mère, de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Donc Paul se place dans la mouvance, dans le droit fil des grands prophètes d'Israël. Quand je vous disais qu'il ne renie pas son judaïsme, c'est quand même extraordinaire. Il se situe comme un prophète d'Israël à la suite des autres, avec une vocation choisie et envoyée par Dieu depuis toujours. Ça ne nous dit quand même pas quand est-ce que l'événement s'est passé. Quand Dieu qui est, a jugé bon. Voilà quand l'événement s'est passé, c'est quand Dieu a jugé bon. Date, lieu, moyen, condition, vous n'en saurez pas plus. Quand Dieu a jugé bon. De révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les nations païennes. L'événement dans la bouche de Paul se réduit ou à cette ampleur-là, révéler son Fils en moi. C'est un événement de révélation qui ressemble quand même bien à une prise de conscience intérieure, à un événement intérieur. A-t-il été filé dans la durée ? Est-ce que Dieu lui a révélé dans la durée ? Est-ce que ça a été un événement immédiat ? Il semble quand même qu'il y a une rupture dans son existence, puisqu'il dit « avant, je persécutais ». Mais Dieu a jugé bon de révéler son Fils en moi. Alors après, il faut s'arrêter quand même sur cette expression « révéler son Fils en moi ». Révélation du Fils, cette fois-ci, Dieu révèle effectivement celui que Paul méprisait et persécuté à travers ses disciples, le crucifié qu'il considérait, il le dit un peu plus loin dans la lettre, comme un maudit de Dieu. Celui qui est pendu au bois, dit le Deutéronome, est un maudit de Dieu. Ça ne peut pas être le Messie d'Israël. C'est pour ça que Paul persécutait les disciples. Ils disent n'importe quoi. Et celui-là, Dieu a lui révélé, a révélé à Paul qu'il était son fils. Le fils de Dieu, l'élu, le plus proche du cœur de Dieu. Et il l'a révélé en moi. Alors, cette expression, moi, m'attire l'oreille parce que normalement, on dit Dieu m'a révélé son fils. Révélé en moi, c'est employer une expression très bizarre. En grec, ça fait drôle. C'est bizarre. Et moi, je me suis toujours demandé si ça ne veut pas dire que Paul a non seulement découvert, Dieu lui a révélé que le crucifié qu'il persécutait était le fils de Dieu, mais que en lui, Paul, il y avait une révélation de filiation. Il a révélé la filiation en moi. Lui aussi, Paul était fils. Et tout homme, sans condition, avec pour demande qu'il y croit, est révélé comme fils. Pour moi, c'est aussi une révélation de son être à lui de fils. Il a révélé son fils en moi, il a révélé la filiation en moi. Dans le texte grec, fils n'a pas nécessairement une majuscule. C'est nous qui la mettons, j'ai fait exprès de ne pas la mettre. Dieu m'a aussi révélé dans le Christ qui vit en moi, il m'a révélé comme fils. Et tout ça a en fait une seule visée, la mission, afin que je l'annonce parmi les païens. D'accord ? Et la phrase, d'abord, c'est une phrase subordonnée, secondaire dans l'ensemble du message. Quand Dieu qui m'a appelé de le ventre de la mère, etc., a jugé bon de révéler son fils en moi, afin que je l'annonce. Et finalement, on a tout, on a l'événement ou la découverte intérieure, on a la vocation de Paul, on a la mise en route pour la mission, et on n'a toujours pas la phrase principale. Tout ça est subordonné à quoi ? Eh bien, est subordonné à la mauvaise tête de Paul. Aussitôt, je ne me suis pas réclamé d'une autorité humaine. Il n'est pas allé voir à Jérusalem pour qu'on en parle un peu, quoi, pour voir si ça pouvait se vérifier. Et là, on voit bien à quel point il est dans le combat, dans la polémique. Je ne me suis pas réclamé d'une autorité humaine. Il le dit autrement en grec, c'est « je ne me suis pas réclamé de la chair et du sang ». Tout ça, ça se passe entre Dieu et moi. Et les autres n'ont rien à faire là-dedans. Et, alors il va encore plus loin, « je ne suis pas monté à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi ». Donc là, il montre clairement « je fais la mauvaise tête ». Je refuse d'aller voir. En fait, il a de bonnes raisons. Comme il va immédiatement et qu'il a immédiatement après commencé à annoncer l'évangile aux païens, sans leur imposer la loi de Moïse, il savait qu'il serait mal reçu à Jérusalem. En fait, il dit bien qu'il n'y est pas allé. Il dit bien qu'il n'y est pas allé, et il insiste. Voilà. Mais, alors, je suis parti en Arabie. N'imaginez pas qu'il est allé faire 3 ans au désert à manger des sauterelles. Hein. Quand on parle de l'Arabie à cette époque, c'est l'Arabie heureuse, c'est le royaume qui correspond à Pétra, hein, le royaume de Pétra, où on sait par les Actes des Apôtres que Paul est allé aussi. Ça va ? Maintenant, concluons. Vous voyez la présentation de l'événement par rapport à celle des Actes des Apôtres et par rapport à l'imaginaire chrétien ? C'est quand même étonnant. Paul en fait cette espèce de retournement intérieur, entièrement dans la ligne des grands prophètes d'Israël, qui lui fait découvrir le Christ comme fils de Dieu et qui lui fait découvrir que lui, comme tout homme, et quels que soient les préalables et les antécédents, est désormais appelé et a le droit d'être reconnu fils de Dieu. Et tout cela doit être annoncé. Ça vérifie son apostolat, et tout cela doit être annoncé. Ça va jusque-là ? Voilà. Ça, je voulais bien vous montrer comment, dans le Nouveau Testament, on a, à propos d'un même moment, sinon d'un même événement, le retournement de Paul, il est indéniable, personne ne le nie, il le dit, tout le monde le dit, mais on a deux points de vue extraordinairement, de récits extraordinairement différents. Et ça, c'est bien, c'est riche. Ça montre qu'on n'essaye pas de... Enfin, l'Église n'a jamais cherché, les responsables, ceux qui, au fond, se sont entendus pour garder ces textes, on n'a jamais cherché à imposer une vérité historique que d'ailleurs personne ne connaît, parce que les témoins ne sont jamais d'accord, et une ligne, un récit obligatoire. Luc en a 3 et Paul en donne 1 entièrement différent. Faites avec ça, voilà. C'est comme ça que vous approchez un peu du mystère, d'un appel et d'une vocation. Ça marche ? On continue, si vous voulez bien. On continue parce que maintenant, il est chargé d'aller annoncer aux païens, il faudrait qu'ils s'y mettent. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Arabie ? Évidemment, Luc l'envoie dans les synagogues et ensuite en dehors dans les villes. Évidemment, il est allé annoncer Jésus-Christ sans rien demander à personne. Mais quand même, ensuite, verset 18, vous voyez ? Ensuite, après 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour m'enquérir de Képhas. Paul n'appelle pratiquement jamais, sauf un peu plus bas, on verra 2 fois, Pierre par son nom grec. Il l'appelle par son nom araméen, Képhas. C'est comme ça qu'il le connaît. Lui est bilingue, Paul, probablement. Sa langue maternelle, c'est le grec. Il sait parler l'araméen. Et je suis restée auprès de lui 15 jours. Alors, le verbe enquérir, c'est le verbe de l'histoire, des enquêtes, de l'histoire d'Hérodote. C'est, on vient écouter ce que raconte un témoin. Et je suis restée auprès de lui 15 jours. Qu'est-ce qu'ils se sont racontés, ces deux-là ? Ce qu'on voit, c'est qu'ils ne se sont pas tapés sur la figure et que pendant 15 jours, ils se sont parlé. Et évidemment, il y a un exégète britannique, bien sûr, qui dit très joliment, ils ont dû parler d'autre chose que du temps qu'ils faisaient. Évidemment qu'ils ont parlé de Jésus-Christ et que Pierre a raconté. Évidemment que Paul a appris de Pierre des tonnes de choses. Il ne voulait rien savoir. Il est allé à la source. Et on voit bien que Sa colère, sa mauvaise tête, elle cède quand même devant une première nécessité. Il faut aller à la source, se renseigner. Il y va. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, avec une petite astuce et une subtilité, mais ça lui permet de récupérer Jacques, le frère du Seigneur, parmi les apôtres. Or, Jacques, le frère du Seigneur, ne fait pas partie des 12. Il y a un débat qu'on voit bien à travers les Actes des Apôtres. Pour Luc, il y a les 12, les apôtres et Paul. Et Paul n'en fait pas partie. Et quand il faut reconstituer le groupe des 12 au début, Pierre dit, on va choisir quelqu'un qui a marché avec Jésus de Nazareth dans les jours de sa vie le long des routes. Il faut un témoin oculaire. Ça, c'est le groupe des 12. Paul n'est pas un témoin oculaire, ce n'est pas un apôtre. Paul, il s'est envoyé, non de la part des hommes, c'est le mot apôtre qui est là. Paul, il se dit apôtre. Et tout envoyé par Jésus-Christ sera apôtre. Il y aura même une apôtre femme à la fin de la lettre de Romains. que l'histoire a essayé de dégager, mais qui est quand même là. Voilà, une apôtre femme. Et du coup, il élargit le mot, c'est tout envoyé de Jésus. Et donc Jacques de Jérusalem, le frère de Jésus, a aussi le droit au nom d'apôtre. C'est des petites touches comme ça, mais on voit qu'il place quand même bien ses billes. Voilà. Ce que je vous écris, voilà à la face de Dieu que je ne mens pas. Je vous lis juste ce passage pour vous montrer la passion qu'il y a derrière. Personne ne dit qu'il a menti, mais si, bien sûr. On a dit qu'il avait menti. Je ne mens pas. Ensuite, je suis venue dans les régions de Syrie et de Cilicie. J'étais inconnue de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, ils avaient entendu dire « Celui qui nous poursuivait ou nous persécutait naguère annonce maintenant la foi qu'il détruisait alors. Il glorifiait Dieu à mon sujet. » Voilà, notre Paul qui a fini par aller se renseigner. Qu'est-ce qui va... Ça va jusque-là ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Eh bien, après, la lettre, donc qu'il écrit dans la foulée, hein, le récit, alors qu'il n'écrit pas, il dicte, hein, Paul dicte. Dans certaines lettres, la lettre, justement à la fin de la lettre aux Galates, dans 2 Corinthiens, les lettres où il y a vraiment des débats, où c'est allé très mal, à la fin, il dit, je signe moi-même. Les grosses lettres, à la fin, c'est de moi, c'est ma signature, pour bien montrer que c'est. Mais sinon, il dicte. Dit dans la lettre aux Romains, que son secrétaire salue les Romains. En tout cas, on voit bien que la dictée lui fait sauter 14 ans. Ensuite, après 14 ans, je suis montée à nouveau à Jérusalem en emmenant aussi Tite avec moi. Tite, c'est un des disciples de Paul, dont la mère... qui est un païen. Qui n'est pas baptisé, qui n'est pas circoncis. Tite n'est pas un juif, son père est un païen. Même si à un moment il dit que sa mère est juive, Tite est un païen qui n'est pas circoncis. Mais Paul l'a baptisé, évidemment. Alors, on lit la suite, je le lis lentement et après je reviens parce que c'est plein de choses, cette histoire-là. Je suis montée d'après une révélation et je leur ai exposé l'évangile. Qui c'est ce leur ? Ceux de Jérusalem, on ne sait pas qui c'est. Je leur ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations païennes. Mais je l'ai fait en particulier à ceux qui sont considérés de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais même Tite, mon compagnon qui est grec, ne fut pas contraint à la circoncision. C'était à cause de faux frères, des intrus qui s'étaient introduits pour espionner notre liberté, celle que nous avons en Jésus-Christ, pour nous réduire à la servitude. À cela, nous n'avons pas cédé. Même pour une concession momentanée, afin que la vérité de l'Évangile demeure pour vous. Je m'arrête là. C'est quand même assez incohérent, cette affaire. Hein, c'est assez incohérent, et le texte grec l'est encore plus. En traduisant, on est obligé quand même de remettre un peu les choses en place. Vous voyez bien que c'est très, pas décousu, mais qu'il manque la moitié des éléments d'information. Même Tite... Mon compagnon qui est grec ne fut pas contraint à la circoncision. Qui a parlé de contraindre Tite à la circoncision ? Tout ça repose sur ce qui a été dit, ce qui lui a été reproché, etc. C'était à cause de faux frères. Quoi était à cause de faux frères ? Qu'est-ce qui se passe ? Et le vocabulaire est violent. On est en plein vocabulaire de la guerre et du siège. Des faux frères, des intrus qui s'étaient introduits pour espionner notre liberté. Pour violence, c'est violent. Celle que nous avons en Jésus-Christ pour nous réduire à la servitude. À cela, nous n'avons pas cédé, même pour une concession momentanée. Paul est monté à Jérusalem après 14 ans, d'après une révélation. Ça veut dire, au fond, qu'il n'y est pas monté de sa propre décision. Il y a quand même l'Esprit de Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ qui l'a poussé, j'allais dire un peu grossièrement, aux fesses. Il a été poussé par derrière, voilà, d'après une révélation. C'est Dieu qui l'a dit, allez, maintenant on y va, hein, on y va. Il est monté, poussé par, et il y est allé. Et là, il a exposé l'évangile qu'il proclame parmi les nations, et il a couru le danger d'être, au fond, mis en échec. Par ces intrus, ces gens qui espionnent leur liberté, ces gens qui voulaient que Tite soit circoncis et qu'on n'annonce pas l'évangile aux païens sans d'abord leur avoir imposé la loi de Moïse. Et là, je vais revenir sur ces 14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 14 ans? Si on compare avec la façon dont Luc raconte les choses, et il va raconter la même réunion de Jérusalem, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au centre des Actes des Apôtres, au chapitre 15. Réunion de Jérusalem, où on va s'affronter et se mettre d'accord sur le problème, on circoncit ou on ne circoncit pas. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Luc raconte cette histoire, au chapitre 15, pas tellement longtemps après ce que lui appelle la conversion et non pas la vocation de Paul, au chapitre 9, après les chapitres 10 et 11, où je vous ai parlé de la conversion de Pierre, chapitre jusqu'à 12, et en 13 et 14, Luc raconte le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé dans le sud de la Turquie, pas encore en Galatie, jusqu'à Antioche de Pisidie, voilà, à partir de Iconium et Antioche de Pisidie, oui, et retour par la mer. Donc Luc raconte le premier voyage missionnaire de Paul et il fait remonter Paul et Barnabé à Jérusalem avec le souci de gens qui leur posent la question, et eux apparemment se la poseraient, est-ce qu'on peut baptiser des païens sans les avoir circoncis? Et ils viennent porter la question à Jérusalem. Et Paul ne partira dans ses grands voyages missionnaires en Galatie et en Grèce qu'après que la question aura été résolue à Jérusalem, au chapitre 16, 17, 18, 19. Ça va? C'est-à-dire que Luc fait d'abord faire un premier voyage missionnaire à Paul, vous avez les schémas, et ensuite, rencontre à Jérusalem, il faut poser la question, se mettre d'accord. Pierre dit, on n'a pas le droit de leur imposer une charge pareille, il ne faut pas les circoncire. Jacques de Jérusalem en tombe d'accord et on envoie une lettre qui est libellée ainsi. L'Esprit-Saint et nous avons décidé que on n'imposerait pas aux païens la circoncision avant de les recevoir dans l'Église de Jésus-Christ. Et après, il y aura quand même quelques décrets, quelques réserves. Il faudra quand même qu'ils ne mangent pas les viandes impures. Bon, mais ça, c'est secondaire. Voilà la vision de Luc des choses. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, c'est Paul qui repart avec la lettre pour aller la diffuser et donc se plonger dans la mission aux païens. Paul ne raconte pas les choses ainsi. Paul raconte les choses entre son premier voyage missionnaire et ou son début, son départ et l'assemblée de Jérusalem qu'il va raconter maintenant, un trou de 14 ans. 3 ans plus 14, ça fait même 17. Prenons le trou de 14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 14 ans? Alors, prenez le dernier document. C'est un peu compliqué, mais je crois que c'est intéressant. Prenez le dernier document où vous avez une chronologie. Tu vois? Que j'ai essayé de faire de pièces et de morceaux parce que rien n'est si difficile que de faire une chronologie. Il y en avait déjà des faits, j'ai utilisé des choses. Bon. Au centre, il y a les éléments extrêmement rare des lettres de Paul qui permettent de un peu faire de chronologie. On a vu la lettre aux Galates, 3 ans, 14 ans, donc ça aide. À droite, vous avez les chapitres des Actes des Apôtres correspondants, et à gauche, vous avez la reconstitution tentée que je tente de la chronologie de Paul et de ses missions. Ça va? Bon. Si vous regardez la colonne de gauche, il y a la conversion de Paul, le séjour en Arabie, la première mission, puis une deuxième mission en Galatie, en Grèce, à Philippe, à Thessalonique, à Bérée, à Athènes, donc le grand voyage missionnaire de Paul, son deuxième grand voyage missionnaire, chez les Galates, chez les Grecs, etc. Et enfin, l'arrivée à Corinthe, en 49-51, là on peut vraiment le dater. Ce qui est en gras, c'est l'histoire universelle, l'histoire officielle, ce dont on est sûr. On peut enfin le dater. C'est à ce moment-là, après 3 ans plus 14 ans, qu'enfin, poussé par Dieu ou par l'Esprit-Saint, Paul va monter à Jérusalem. Ça va? On est en 52. Ça marche ou non? Ça, c'est ce que je reconstitue à partir de la lettre aux Galates, et ce qui aujourd'hui paraît raisonnable à tout le monde. De l'autre côté, tout à fait à droite, vous avez l'ordre des choses dans les Actes des Apôtres. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que Luc place ce qu'on a appelé à tort le Concile de Jérusalem. C'est un peu le titre de Luc, c'est une rencontre. Le place après le voyage missionnaire, le premier voyage missionnaire de Paul au chapitre 15. Donc il faut le remonter, c'est le sens de ma liste, ou plutôt Luc a déplacé dans le temps quelque chose qui aurait dû être beaucoup plus bas. Ça va ? Vous comprenez ça ? Autrement dit, et les voyages de Paul, deuxième et troisième voyage, il les a fait après quand tout le monde était d'accord. Autrement dit, on a entre les deux chronologies une différence d'au moins 14 ans. Ce qui n'est pas peu quand on sait que Paul, au fond, sa mission doit dater d'environ 38 jusqu'à 58. Sur 20 ans, 14 ans, ce n'est pas rien. Hein, vous ne pouvez pas dire qu'il est resté 14 ans dans le désert et qu'il a tout fait dans les 5 ou 6 dernières années. Donc on a deux chronologies différentes, inconciliables, et tout le monde est d'accord, c'est inconciliable, et qui s'expliquent chacune par le point de vue différent de l'auteur. Le point de vue de Luc, je vous l'ai dit. Il faut que Paul ait fait un premier tour où il a rencontré surtout des Juifs, peut-être rencontré quelques païens, et revienne poser la question à Jérusalem pour que tout se fasse dans l'ordre et l'unanimité de l'accord. À ce moment-là, quand on aura fait une belle lettre, l'Esprit-Saint et nous avons décidé que tout le monde sera d'accord, Paul pourra partir en mission. Bon. Luc n'est pas tout à fait naïf. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait tellement bien ce qu'il fait que il dira au chapitre 21 qu'en fait, Paul n'était pas au courant de tout ce qui s'était passé à la réunion de Jérusalem. Donc il sait très bien qu'il est en train de tricher. Mais il triche pour montrer que finalement, quand l'Esprit-Saint, quand on voit tout ça du point de vue de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint et nous avons décidé que, eh ben, en gros, on peut reconstruire les choses de façon unifiée avec l'accord de tout le monde. Ça va ? Harmonieuse avec l'accord de tout le monde. Paul, il vit sur au fond, cette espèce de rage qui raconte aux Galates, on met mon apostolat en question, on met ma vocation en question, on met la vérité de l'évangile en question. Moi, je vous raconte comment ça s'est passé. Voilà. C'est le Seigneur qui m'a envoyé. Au bout de 3 ans, quand même, je suis allée à Jérusalem, il fallait bien que je me renseigne. J'ai rencontré Pierre et même Jacques et tout s'est bien passé. 14 ans après, j'y suis retournée à nouveau, poussée par le Seigneur, pas de mon propre gré. Et là, je leur ai exposé quoi ? L'évangile que j'annonce parmi les païens, c'est-à-dire que je leur ai exposé mon grand voyage missionnaire. Son grand voyage missionnaire où il est allé chez les païens en Galatie, en Grèce, à Thessalonique, Philippe, Corinthe, Athènes. Et il leur a raconté tranquillement que lui, il baptisait sans circoncire personne. Voilà. Évidemment, il s'est méfié. Il ne pouvait pas dire ça devant la garde rapprochée de Jacques de Jérusalem, chrétien venu du judaïsme, qui voulait absolument qu'on passe par la loi de Moïse, sinon ça n'avait aucune valeur. Ça va ? D'où le caractère tourmenté, agressif de ce récit qu'il fait dans la lettre, du souvenir qu'il a de cette rencontre, où visiblement il était plus que sur ses gardes, plus qu'essayant d'échapper aux critiques et plus qu'essayant d'affirmer sa vocation, sa bonne foi et le fait qu'il baptisait sans circoncision. Et s'il attend 14 ans pour y aller, c'est que pour convaincre les autres, et il va les convaincre, et il les a convaincus, et là on est bien d'accord avec Luc, il fallait qu'il ait derrière lui une série de communautés chrétiennes, d'églises chrétiennes venues du paganisme qui vivent de la foi en Jésus-Christ et donc de la vie et de la mort fraternelle. Et ce qu'il est en train de monter à Jérusalem, d'apporter à Jérusalem, c'est la réussite de ces églises chrétiennes en Galatie, en Grèce, dans le monde païen. Ça marche ? Voilà. Et ça, c'est incontournable. Les autres devront évidemment constater que. Donc, ce que Paul est en train de défendre, c'est un appel qui vient de Dieu seul et du Seigneur Jésus-Christ et qui n'a pas besoin de vérification humaine, de validation humaine. Des églises chrétiennes nombreuses venues du monde païen où on vit vraiment de et en Jésus-Christ sans que la loi de Moïse ait été respectée et sans avoir été circoncis. Mais au fond, tout ça, il faut bien qu'il vienne la porter à Jérusalem. Et il a quand même senti la nécessité impérieuse, même si c'est le Seigneur qui l'a poussé, mais enfin la nécessité inévitable, incontournable, de venir rencontrer ceux de Jérusalem et de s'entendre avec eux. Ça va ? Et on va avoir là les trois, au fond, le trépied de l'apostolat de Paul, mais on lit d'abord cette rencontre de Jérusalem. Regardez la façon dont il, après l'avoir annoncé de façon aussi bouleversée, heurtée, à partir du verset 6, tout s'apaise. Mais de la part, pas tout de suite, mais de la part de ceux qui sont considérés, c'est les notables, hein, ceux qui sont en... Oui, qu'on considère, il n'y a pas d'autre mot. Le mot grec dit c'est qu'ils sont quelque chose, ils sont respectés. Ce qu'ils étaient alors, peu m'importe. Dieu ne regarde pas la situation des hommes. Il ne veut pas savoir si c'est Pierre, si c'est Jacques. À nouveau, il dit, moi, je m'en occupe. En effet, ceux qui sont considérés ne m'ont rien réclamé de plus. Voilà. Lui n'a pas réclamé d'autorité humaine et eux ne m'ont rien réclamé. Mais au contraire, voyant que l'évangile des incirconcis, raccourci paulinien, l'annonce de la bonne nouvelle aux païens qui ne sont pas circoncis, d'accord ? C'est ça qui rend la lecture de Paul si difficile. L'évangile des incirconcis, ça veut dire l'annonce de l'évangile aux païens qui ne sont pas circoncis. Voyant que l'évangile des incirconcis m'était confié à moi, comme à Pierre, là on a le nom grec de Pierre, celui des circoncis, Pierre est envoyé plutôt au monde juif, en effet, celui qui avait agi en Pierre pour l'envoyer auprès des circoncis avait aussi agi en moi pour les nations païennes, et connaissant la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Céphas et Jean, ceux qui sont considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main à Barnabé et à moi en signe de communion afin que nous allions, nous vers les nations païennes, eux vers les circoncis. Seulement, nous devions nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. La présentation de l'accord de Jérusalem est beaucoup plus apaisé, même s'il a dit qu'il ne voulait pas savoir quelle notoriété pouvaient avoir Pierre, Jacques et Jean. Et elle montre une espèce d'équilibre et d'harmonie avec une espèce de partage des territoires de mission entre Paul d'un côté et Pierre de l'autre. Paul dit que l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle aux incirconcis m'était confiée à moi. C'est un mot grec qui est intéressant. Le français essaye de le rendre. C'est la racine de la foi. C'est la racine de la foi. Confier, fidélité. En français, on a des tas de mots. Foi, fidélité, confier. Mais on a aussi le verbe croire. On n'a pas la même racine. Le grec a une seule racine pour foi, fidélité, confiance, crédit. Ça a été confié. Dieu a fait crédit à Paul comme il a fait crédit à Pierre. Dieu a eu foi en Paul, ou le Seigneur Jésus-Christ, comme il a eu foi en Pierre. Et lui a confié d'aller annoncer l'Évangile. Leur a confié. Alors, pourquoi Paul les incirconcis et Pierre les circoncis ? Parce que Paul est parti vers l'ouest. D'abord la Galatie, mais après il bifurque tout de suite en Macédoine. Et Luc prend occasion pour en faire une vision dans la nuit avec un Macédonien qui vient dire à Paul, il faut que Paul tourne à gauche sur la carte. Il ne faut pas qu'il aille à droite. Il faut qu'il tourne à gauche et qu'il passe en Grèce, voilà, en Europe. Et donc, à Paul est attribuée cette partie-là. Pourquoi ? Évidemment, il y a des Juifs dans ces régions-là. Il y a des Juifs à Rome. Il y a au moins 20 000 Juifs à Rome dans les années 50. Ils sont chassés, ils reviennent. Enfin, il y a des Juifs en Gaule, bien avant les Francs. Mais il y en a quand même relativement peu. Ce sont des communautés relativement petites, même à Rome, ou en tout cas relativement pauvres, pas très cultivées, relativement fermées. Le judaïsme riche de population, de culture, de tradition, c'est Alexandrie en Égypte et c'est tout l'Est jusqu'à Babylone. C'est là que le judaïsme, c'est largement... Et il y a des... Parce que ce sont des marchands, et il y a des comptoirs juifs jusqu'à Babylone et au-delà, sur ce qui deviendra la route de la soie, le judaïsme était allé jusqu'aux abords, aux abords de l'Inde et de la Chine, hein, très très loin. Et donc Pierre va partir de ce côté-là en s'appuyant davantage sur la tradition juive, les synagogues, le monde juif qui est là. donc un partage qui ne donne pas la part pauvre à Pierre, mais qui est vraiment un partage Orient et Occident. Ça marche ? L'autre aspect important de l'affaire, c'est que vous voyez bien que Paul finit par reconnaître que ces trois-là, et c'est intéressant, Jacques, qui est vraiment la figure à ce moment-là marquante à Jérusalem, Képhas et Jean, donc il y avait Jean, l'apôtre de Jésus, sont considérés comme des colonnes. Alors, il ne prend pas parti, mais enfin, il reconnaît que ce sont eux les colonnes de ce christianisme premier. Ils lui donnèrent la main en signe de communion. Alors, je m'arrête sur ce mot « communion », parce que c'est un mot, là aussi, qui est introduit par Paul. C'est « koinonia ». Ça n'existe dans le Nouveau Testament que dans les lettres de Paul et une fois dans une lettre de Jean. Voilà du vocabulaire encore que Paul a acclimaté chrétien. Bien sûr que ça existe ailleurs, la communion. Hein. C'est le fait de mettre tout et même la vie en commun. Mais lui en fait un mot fort du vocabulaire chrétien. La communion, pour Paul, c'est la participation de chacun et de tous les croyants à la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Rien d'autre. Rien que ça. Participer pleinement à. Vous êtes associés à. Et la main de communion, c'est la main qui les associe dans la foi commune en la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas un contrat politique, ce n'est pas non plus une affaire sentimentale. Il est clair que Paul continue à détester au moins Jacques de Jérusalem et n'a aucun sentiment d'affection pour Pierre. Aucun. Il ne faudra pas lui demander. Ça n'est ni sentimental ni politique. C'est intéressant pour l'unité des chrétiens. C'est une reconnaissance de la foi commune en Jésus-Christ d'où vient l'unité. Et après, ben, j'allais dire, détestez-vous cordialement, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'on sent bien qu'il ne les aime pas. Et vous allez voir à suite comment il traite Pierre. On le sent bien. Et qu'il continuera. Et on voit bien, après, en Galatie, ils ont passé leur temps à s'engueuler. Bon, pas grave. Mais on se donne une main de communion, on reconnaît la foi commune. Et le fait qu'on annonce le même Jésus-Christ vivant, qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité, et dont on vit et présent au milieu des églises rassemblées. Ça marche, ça ? C'est important. Oui ? Ah, c'est l'image de la colonne du temple. C'est les colonnes du temple, tout à fait. C'est ce qui soutient le temple. Non, il reconnaît qu'il soutient l'Église. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ce Paul, tellement franc-tireur, qui est quand même parti pendant 17 ans sans rien demander à personne, 3 plus 14, ça fait 17, hein, rien demander à personne, qui est allé fonder les églises de Corinthe, Philippe, Thessalonique, Athènes, machin, et bien d'autres, Éphèse, etc. Ce Paul, il monte quand même à Jérusalem et il reçoit des autres une main de communion. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il n'y a pas de vérité de l'Évangile sans un appel de Dieu. Des églises qui ont reçu l'Évangile et qui en vivent, le deuxième point de son trépied. Et troisième point, l'accord de communion avec les témoins oculaires, les premiers témoins. S'il n'était pas monté à Jérusalem, il fondait sa religion à lui. Une religion détachée de la source historique. Or, le christianisme est religion de l'histoire. Et quand il monte à Jérusalem, il reconnaît qu'on ne peut pas se détacher de la source historique. Jésus est né juif à Jérusalem, les premiers apôtres sont juifs, et lui, Paul, est un juif qui est né là. Ça va ? Et c'est ça, la reconnaissance. Après, les affaires sentimentales, c'est autre chose. Ça marche ? Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je finis dans 5 minutes, je vous lis le dernier passage, parce que ça vaut la peine. Une petite histoire drôle. Paul va encore sauter dans le récit qu'il fait. Je vous rappelle qu'il fait un récit hein, pour se justifier, pour montrer ce qui s'est passé, pour dire quelle est la vérité de l'Évangile reconnue par les autres. Dans ce récit, il saute encore quelques années, on ne sait pas combien, quelques-unes, mais 1 ou 2 ans après, peut-être à peine quelques mois, on ne sait pas. Où visiblement, il raconte ce qui lui est arrivé quand peu après, il se trouvait à Antioche. D'après les Actes des Apôtres, c'est très peu après. Quand Képhas vint à Antioche, verset 11, à la page 2, je m'opposais à lui en face parce qu'il était dans son tort. Alors là, le mot grec, il dit il était condamnable, condamnable et condamné, rien que ça. En effet, avant que viennent des gens du parti de Jacques, Jacques de Jérusalem, il mangeait avec les païens. Autrement dit, Képhas, Pierre, mangeait des nourritures impures. Les Actes des Apôtres nous ont appris qu'il avait reçu de l'Esprit-Saint l'obligation de passer à une vie fraternelle avec les païens. Il mangeait avec les païens, mais quand ces gens du parti de Jacques furent arrivés, ils se dérobaient et se mettaient à l'écart par crainte des circoncis. Pierre a-t-il eu peur ? En tout cas, il a arrêté de manger des viandes impures. Et les autres juifs, alors, difficulté supplémentaire des lettres de Paul. Quand il parle des juifs, c'est soit les juifs juifs, soit les juifs venus du, les chrétiens venus du judaïsme. Quand il parle des païens, c'est soit les païens païens, soit les chrétiens venus du paganisme. Débrouillez-vous pour distinguer. Et les autres juifs, c'est-à-dire les autres chrétiens venus du judaïsme, rentrèrent aussi dans son jeu. En grec, ça se dit être hypocrite, parce que l'hypocrisie, c'est le jeu de l'acteur qui parle avec un masque. Donc, Pierre, il avait mis un masque, il jouait la comédie. Ils rentrèrent aussi dans son jeu, de sorte que Barnabé lui-même fut entraîné dans leur jeu ou dans leur hypocrisie. Mais quand je vis qu'ils ne marchaient pas droit vers la vérité de l'Évangile, je dis à Képhas devant tous. Donc, il le prend à témoin publiquement et il l'engueule publiquement. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à celle des juifs, puisqu'il a participé à la table commune et aux viandes impures, comment peux-tu contraindre les païens à judaïser ? Tu ne vas pas maintenant leur imposer de suivre la loi de Moïse. Donc, Paul fait publiquement une scène à Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Clairement, Pierre avait bien admis le fait que, voilà, c'en était fini avec la loi de Moïse. Lui, il l'observait peut-être, mais quand il est avec des chrétiens venus du paganisme, on mange tous à la même table. Arrivent des gens de Jérusalem, d'auprès de Jacques, rigoristes, qui disent « Non, non, c'est pas possible. D'ailleurs, disent-ils, on avait pris des mesures à Jérusalem pour dire qu'il fallait quand même respecter la séparation des tables et ne pas manger des viandes impures. » Pierre ni Paul n'avaient l'air de le savoir, ou en tout cas, ils n'en faisaient pas cas. Pierre, du coup, se retire. Pas la peine de rompre, on va calmer le jeu. Et Paul hurle, et devant tout le monde, lui fait une scène. La chose amusante, c'est que le récit s'arrête là, net. C'est-à-dire, après, Paul part dans un grand discours rhétorique. Nous, nous sommes juifs par nature, un discours sur la justification par pure grâce. Et le petit récit de ce qu'on appelle l'incident d'Antioche, il ne va plus en parler et surtout, nul ne saura comment ça s'est terminé. Enfin, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Pierre a répondu ? Paul lui fait une scène publique et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Qui a gagné ? Comment ils ont transigé ? On n'en sait rien. Donc, je vais bâtir sur du vide. N'en tenez pas compte si ça ne vous plaît pas. Après une longue fréquentation de Paul que je travaille depuis... je me dis que si Paul avait gagné à Antioche, il l'aurait fait savoir. Mais évidemment, s'il avait gagné devant Pierre, il l'aurait dit. Et en fait, il est très probable qu'il n'a pas eu gain de cause et que Pierre a dit « Non, non, on fait comme ça pour le moment » et que Paul est parti à l'oreille basse. Il n'est plus jamais revenu à Antioche. Ça, on le sait. Alors, ça ne veut pas dire que Paul a perdu. Parce que quand... vous regardez l'état de l'église d'Antioche, et on a un très bon témoin, Ignace d'Antioche en 110-115, évêque d'Antioche qui va mourir martyr à Rome. Vous vous apercevez qu'on ne parle plus du tout du judaïsme. Il n'y a plus que des païens à Antioche, et on vit un christianisme tranquille. Donc, à long terme, Paul a gagné. À long terme, il est resté des judéo-chrétiens pendant 3 ou 4 siècles. Mais ils ont fini par se fondre dans la masse des païens. Et les chrétiens n'ont plus observé, même si ça a duré dans certains groupes, n'ont plus observé les lois de séparation des tables et de l'impureté des viandes juives. Donc, à long terme, la radicalité de Paul, la vérité de l'Évangile, il n'y a pas de condition préalable, Paul a gagné. À court terme, c'est probablement Pierre qui l'a emporté. Et là, un grand coup de chapeau à Pierre, parce qu'au fond, Paul est bien conscient que, sur le fond, Pierre est d'accord. Il ne dit pas que Pierre a changé d'avis. Il dit que Pierre joue la comédie. Donc, il dit clairement, Pierre a joué un jeu pour calmer la situation. Et au fond, c'est ce pragmatisme, ce jeu prudent, cette stratégie de conciliation de Pierre qui a sauvé les choses. Sinon, Paul serait parti avec une rupture et il aurait rompu avec l'église de Jérusalem. À nouveau, il aurait rompu avec la source historique. Avec son caractère de cochon emporté. Et Pierre a gardé le lien. Au fond, il a accepté le compromis provisoirement. Et moi, je trouve ça vachement intéressant. Et j'ai trouvé à Rome, il y a 2 ans, c'est pas un peintre connu, hein, c'est un gars du 18e siècle, dans une église de Rome, j'ai trouvé visible cette représentation de Pierre et Paul que je trouve formidable. Paul est raide, buté, les sourcils comme ça, les cheveux au vent, la barbe en bataille. Et Pierre à côté, qui a la tiare papale, hein, parce qu'on est à Rome et on est au 18e siècle. Pierre le regarde d'un air par-dessous condescendant, avec l'air de dire « on ne le changera pas ». Je trouve ça formidable. Moi, ça m'aide à réfléchir sur, au fond, comment ça fonctionne, l'Église. Il y a les deux qu'il faut tenir à la fois, la radicalité de Paul, la vérité de l'Évangile. On ne peut pas trahir l'Évangile, c'est son condition. Mais il y a aussi nécessairement les accommodements, les compromis, le fait qu'avec Pierre, on évite la rupture. On évite la rupture. Voilà. On va dire on aura le protestantisme d'un côté, puis l'Église romaine dans ses compromis de l'autre. Je simplifie. Mais vous voyez quand même que c'est très intéressant. Parce qu'on est toujours quand même entre ces deux extrémités. On est radical, mais alors on se sépare. Et il y a eu trop de schismes. On accommode, mais alors on ne peut pas passer du compromis à la compromission. On discerne et on avance cas, ce que fait le pape François. Voilà. Moi, je m'arrête là, j'écoute vos questions et on fait une pause, librairie et repas. Y a-t-il des questions ? Non, ça va, c'est à peu près clair ? Oui ? Vous êtes épuisé ? Vous n'avez pas froid ? Moi, j'ai pas froid parce que je parle, mais vous êtes gelé. Bon, vous allez vous réchauffer en mangeant et avec du café. Et notre libraire est là. Et donc, s'il y a des achats à faire, c'est maintenant. Parce qu'après, il va disparaître.